Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique que j'inaugure, puisque c'est ce qu'il ne fallait pas manquer. Ce qu'il ne fallait pas manquer, ça va être une rubrique qui, si elle plaît et si elle me plaît avec le recul, va voir le jour, surtout lors de la saison 2016 de Formule 1, puisque après chaque course, je ferai non pas un résumé complet, mais j'énumérerai peut-être 3, 4 ou 5 éléments de course qui m'ont plu. Pour l'instant, je suis dans l'optique d'en énumérer 3. Je pense qu'en développer 3, ça donne un podcast qui dure assez longtemps, mais pas trop. Qu'il soit pas trop lourd, assez dynamique. Ça me paraît un bon compromis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par tous les moyens possibles, PodCloud ou réseaux sociaux. Donc le Twitter @F1Analyse et la page Facebook d'Analyse F1. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette idée. En tout cas, ça manquait en fait cette idée pour ceux qui n'avaient pas suivi les derniers podcasts, parce que les résumés assez courts, on va dire, mais bon, qui sont assez longs finalement, que j'effectuais lors de certains podcasts qui suivaient des courses de Formule 1, ça verrait assez long par rapport à la durée totale du podcast. Quand je fais un résumé de 7-8 minutes d'une course, c'est pas très long, j'en dis pas beaucoup, pourtant je détaille vraiment pas, mais ça dure quand même 7-8 minutes. Sur un podcast de 20 minutes, c'est un peu trop, quoi, alors que le podcast est intitulé par un nom de chronique assez précis. Je ne pense pas que, en tant qu'auditeur, quand on voit un titre de podcast, on s'attend pas à ce que quasiment la moitié ou la moitié du podcast soit consacré à autre chose, d'où la raison de cette nouvelle rubrique. Alors ne vous en faites pas, ça ne m'embête pas de faire cette rubrique, bien au contraire, puisque, comme je l'ai dit, j'ai trouvé une sorte de compromis. Alors, on va commencer tout de suite, tout simplement, avec Abu Dhabi, donc ce qu'il ne fallait pas manquer à Abu Dhabi en 2015. Tout d'abord, le classement final, avant d'aborder les 3 points. Premier, Rosberg, deuxième, Hamilton, troisième, Kimi Raikkonen, quatrième, Sébastien Vettel, donc deux Mercedes de Ferrari. Vettel qui fait une très belle remontée par ailleurs. Cinquième, Perez, encore très haut classement. Sixième, Ricciardo, septième, Hülkenberg, les Force India qui enregistrent leur meilleur résultat de la saison, leur meilleur tiers groupé de la saison. Felipe Massa 8e, Romain Grosjean très belle remontée 9e et Daniil Kvyat qui ferme, on va dire, la première partie de tableau avec la 10e place. Donc tout d'abord, la première chose qui m'a, on va dire, qui m'a marqué ce week-end, durant ce week-end de Grand Prix, parce que oui, dans ce qu'il ne fallait pas manquer, je peux parler d'un peu tout et n'importe quoi. Ça peut concerner des dépassements, une course d'un pilote en particulier dans son entier, une performance en qualification qui s'est confirmée en course ou une performance en qualif, une actualité sur le week-end mais qui est liée à la course. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. 3 éléments, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des éléments qui vous ont plus marqué que ceux que je vais proposer. Alors tout d'abord, on est en France, donc évidemment, il faut parler de ce pilote français qui a couru pour la dernière fois, non pas en F1, là, j'ai vu chez vous qu'il y avait votre cœur qui se soulevait. Non, calmez-vous, c'est bon, Romain Grosjean, continuons en F1 la saison prochaine. Mais plus avec Lotus, avec l'écurie américaine assez fin team. Donc voilà, c'était sa dernière course avec Lotus à Abu Dhabi. Et donc, faut en parler parce que, tout d'abord, il a fait une très belle course. Il démarrait 18e au classement parce qu'il avait eu une pénalité suite aux qualifications, parce qu'il a dû changer de boîte de vitesse, il a eu un problème au qualif, il n'a pas pu faire vraiment de tour chrono en Q2. Donc il part 18e, il remonte 9e quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai énuméré le classement. Il revient à la 9e place, donc très belle remontée encore une fois, un peu comme au Brésil, une belle remontée, des dépassements bons, une bonne stratégie, avec une stratégie décalée où il partait en tendre, alors que la majorité du plateau partait en super tendre. C'est pas mal, et au final ça a payé, il a su maintenir le rythme, maintenir ses pneus comme il fallait, et faire marcher cette stratégie et son rythme pour arriver 9e. Donc encore une très belle course de sa part, à l'image de sa saison finalement. Parce que même si lors d'un précédent podcast j'ai parlé d'un cycle difficile pour Grosjean où il commettait plusieurs erreurs, l'ensemble de sa saison n'est pas à l'image de ce cycle, c'était vraiment un cycle fermé, on va dire, dans la saison, et heureusement pour lui et pour sa carrière. Mais toute sa saison, globalement, a été très bonne, hein, avec comme point d'orgue le podium à Spa, évidemment, sur un circuit très prestigieux. Et voilà, la très belle course à Abu Dhabi, finit de la meilleure des manières, on va dire, son aventure chez Enstone et chez Lotus. Donc c'est vraiment, c'était vraiment beau de le voir finir comme ça, et non pas sur un abandon ou autre. Donc évidemment, l'émotion était le maître mot ce week-end chez Lotus et chez Romain Grosjean. On a vu pas mal d'hommages de la part de l'écurie Lotus F1 Team, et Grosjean, lors des interviews, a rappelé à quel point ce week-end était émouvant pour lui, mais qu'il allait faire le boulot, évidemment, en tout bon professionnel qu'il est. Mais que c'était assez émouvant. L'hommage le plus rigolo de Lotus, c'est évidemment quand ils ont fait la photo de famille avec où tous les mécanos, sauf un je crois, tous les mécanos sauf un avaient un masque à l'effigie de Romain Grosjean. C'était assez drôle. Donc voilà, c'était la fin de 10 ans de collaboration entre Enstone et Grosjean. Et oui, 10 ans, hein, depuis 2005 que Grosjean n'avait pas quitté la famille Enstone, hein, donc forcément, ça laisse des traces, et forcément, c'est assez dur de quitter le cocon. C'est un peu comme s'il quittait le cocon familial. Bon, c'est le cocon familial de la F1 cette fois-ci, mais ça revient au même, hein. Il connaît toutes les têtes, et là, il va vers l'inconnu. Donc forcément, il y a de l'émotion, et puis... Et voilà, mais... Selon moi, dans le futur, dans les semaines et mois qui vont venir, quand il sera un peu plus installé chez AS F1 Team, j'espère que Grosjean arrêtera avec l'émotion, avec Enstone, et saura couper le cordon. Là, c'est la prochaine étape qu'il doit accomplir, pas forcément évidente, mais il doit vraiment couper le cordon avec Lotus dans ses interviews, dans ses déclarations, dans sa communication en général, et surtout dans sa tête. C'est surtout dans sa tête, hein, qu'il doit faire ça. Qu'il doit faire ce processus, parce que ces derniers temps, suite aux interviews et suite à ses nombreuses déclarations, il déclare un peu tout le temps que si à l'avenir il y a une opportunité de revenir chez Enstone, eh bien pourquoi pas, il ne ferme pas la porte. Alors c'est très bien d'avoir des portes ouvertes, de se créer des amitiés professionnelles dans le paddock, des bonnes relations professionnelles en tout cas avec une écurie. Évidemment, 10 ans de collaboration, c'est quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il répète ça tout le temps. Selon moi, s'il est chez AS F1 Team, il doit être à 100% chez AS F1 Team. Il ne doit plus dire « Ah oui, si Lotus, ou en l'occurrence Renault, si l'achat de Renault est acté. Si, en gros, si Enstone me demande de revenir, eh ben pourquoi pas, hein, je laisse la porte ouverte. » À mon avis, Soit il ne dit plus ça, soit il dit ça, mais il dit, ben c'est comme avec les autres écuries, hein, je laisse la porte ouverte. Parce que il faut montrer aussi au paddock et au top team qu'il est capable d'aller dans un environnement inconnu et de bien s'y adapter. Et là, ça va être un gros défi chez AS, hein. J'en parlais dans un podcast précédemment, que je vous invite à écouter, vu que c'est lié finalement. Ça va être un gros défi pour Romain Grosjean, à suivre en tout cas. Ensuite, le deuxième point qui m'a marqué ce week-end et pendant cette course, plus ce week-end, hein, finalement, je m'attache pas trop à la course parce que la course en elle-même, il y a eu un truc qui m'a marqué et je vais y revenir en détail tout à l'heure. Mais le deuxième truc qui m'a marqué, ben, c'est un point commun entre plusieurs pilotes. Alors selon vous, petite devinette dans votre tête, hein, ne vous précipitez pas sur vos claviers, ça ne sert à rien, mais dans votre tête, quel est le point commun entre Nico Rosberg, Romain Grosjean, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Jenson Button, et j'ai mis deux fois Ricciardo. Super, je me suis bien gouré dans mes notes. Bref, quel est le point commun entre tous ces pilotes, selon vous? Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir. Rosberg, Grosjean, Vettel, Ricciardo, Alonso, Button. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai zappés, du coup. Mais en tout cas, ceux-ci, c'est les plus marquants. Eh bien, tout simplement, ils veulent être tous en 2016 déjà. Depuis maintenant quelques semaines pour certains, ça s'est un peu plus manifesté en marge d'Abu Dhabi pour d'autres. Ils veulent tous être en 2016 parce que la saison a été longue pour ces pilotes, tout d'abord, je crois 19 ou 20 Grands Prix. 19, hein, je crois, cette saison, comme il n'y a pas eu le Grand Prix d'Allemagne. Mais la saison a été longue, ils veulent être en 2016. Et puis il y a diverses raisons, hein, qui occupent ces pilotes, parce que la saison aurait peut-être pu être mieux pour certains. Rosberg, il veut être en 2016, pourquoi? Ça s'est manifesté à la conférence de presse d'après-course. c'est quand il disait bah là je suis méga chaud, la saison 2016 pourrait être n'importe quand, bah tiens, si elle est demain, ça me va. Ouais, sauf que la saison 2016 n'est pas demain, hein, Nico Rosberg, et justement, ce qui va être le plus dur à gérer pour le pilote allemand, c'est justement l'attente et de revenir dans une pression de championnat du monde. C'est ça qu'on attend de lui, on attend de voir comment il va se comporter à ce moment-là, et quand Hamilton sera de nouveau dans la pression du championnat du monde, c'est-à-dire avec un niveau très élevé, très certainement. Donc voilà, Rosberg doit prendre son mal en patience pour être en 2016, mais il est pressé d'y être en tout cas. Espérons qu'il soit toujours autant pressé dans les mois à venir. Romain Grosjean, eh bien lui, il veut être en 2016 parce que avec Lotus, mine de rien, il a eu une saison difficile sportivement, même s'il la qualifie d'être sa meilleure compte tenu du ratio performance pilote et performance voiture. C'est vrai qu'il a fait pas mal de prouesses, c'est pas mal, mais il veut être en 2016 quand même pour découvrir cette écurie, ce projet. Et voir ce que ça va donner. Sébastien Vettel, il veut être en 2016 parce qu'il a les crocs, tout simplement. Il a énormément les crocs. On le sent, hein, on le voit à son visage, on le voit à ses yeux, on l'entend à ses déclarations. C'est beau de voir un champion du monde comme ça. Hein, il n'est pas champion du monde pour rien, cet homme. Ça, c'est clair. Mais on le sent, il veut être en 2016. Il n'a qu'une hâte, c'est d'en découdre avec sa Ferrari version 2016. Hein. Et on a hâte de voir ce qu'elle va donner, hein, cette monture. Daniel Ricciardo, lui, il a hâte d'être en 2016, ça se ressent déjà depuis pas mal de semaines, voire de mois, puisque il n'est pas satisfait des performances de sa monoplace. Ah, c'est peu dire, hein, parce que en début de saison, il voulait vraiment plus être dans la lutte pour le titre, hein, et pour plus de victoires, et ça a été le contraire. Hein, la Red Bull a régressé, avec une unité de puissance Renault pas au point. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, ces critiques se sont senties beaucoup plus vives envers Renault. C'était beaucoup moins dissimulé, beaucoup moins subtil qu'avant, beaucoup moins aussi, je trouve, professionnel pour le coup. Parce que déjà que les relations entre Renault et Red Bull sont pas très... sont un peu froides depuis quelques temps, depuis maintenant longtemps. Mais Ricciardo, il vient rajouter de l'huile sur le feu alors que Red Bull a besoin d'arrondir les angles avec les motoristes. C'est vraiment pas le bon moment, je pense que... Il a besoin d'être en 2016. En plus, cette année, il a eu un coéquipier qui lui a largement tenu tête et qui est devant lui au championnat du monde des pilotes. Que 2-3 points, hein, ceci dit, c'est vraiment très très peu. Mais il lui a un coéquipier qui lui a quand même tenu tête. Donc, il a hâte d'être en 2016 pour avoir une meilleure monoplace. En espérant que Red Bull soit en F1 hein, la saison prochaine. Ça, c'est pas encore officiel. Hein. Je le rappelle, même s'ils ont annoncé que normalement c'était bon, on ne sait pas avec quel moteur. Hein. Moi, tant qu'il n'y a pas de moteur dans la voiture, elle n'est pas en 2016 hein, pour moi. Donc j'attends de savoir le motoriste hein, avant de faire des informations. Fernando Alonso et Jenson Button, ensuite, c'était évident, ça. La raison, c'est parce que tout simplement, ils sont chez McLaren Honda et que cette saison, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, il y avait très peu d'amélioration. Enfin, il y a eu de l'amélioration en fin de saison. On a vu que la McLaren a pu plus s'exprimer, hein, a pu exprimer ses qualités dans les virages. Hein, quand on regarde les données de leur vitesse en virage, dans les courbes, etc., c'est très bien, c'est très bon. Ça fait partie peut-être des meilleures monoplaces. Par contre, l'unité de puissance, il y a eu très peu d'amélioration toute l'année. Parce qu'on a mis le doigt sur le problème peut-être un peu tard et que pour le régler, eh ben, avec les règles que sont les règles de la F1 en termes de développement d'unités de puissance, c'est compliqué d'améliorer le moteur très vite. En tout cas, on peut espérer, normalement, Honda a assuré que les problèmes seraient réglés début 2016, mais ils avaient assuré tellement de choses que moi j'attends de voir Melbourne. Et j'allais dire Daniel Ricciardo, mais je l'ai déjà cité. Donc pas besoin de le reciter. J'avais dû vouloir dire Raikkonen sûrement pour être en saison 2016, oui. Raikkonen, évidemment, il veut être en 2016 parce qu'il a fait une saison moyenne. Il l'a avoué, très, très humble de sa part, très réaliste, alors qu'en courte saison, il l'avait pas avoué. Hein. Il disait, je savais pas ce qui se passe, on va regarder sur la voiture, on va étudier ça. Mais il n'osait pas dire que c'était de sa faute. Là, il a avoué avoir fait une saison moyenne. Donc c'est déjà mieux. Et il veut lutter pour le titre en 2016, lui, il l'a avoué. Donc voilà, les pilotes Ferrari ont les crocs, entre autres. Hein. Il y en a beaucoup qui ont les crocs, hein, dans ceux que je vous ai dit. Et ça va nous assurer, je pense, une saison 2016 encore palpitante. Et enfin, le dernier point, mais non le moindre, bien au contraire, qui m'a occupé l'esprit à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est évidemment la stratégie complètement cafouillé de Mercedes et Hamilton. Je mets les deux ensemble, Mercedes et Hamilton, parce que selon moi, les deux sont fautifs dans l'histoire. Donc, je vais revenir là-dessus longuement. Donc, ce week-end, pour la course, le côté du garage Mercedes, qui est lié à Lewis Hamilton, avait le choix. Donc, Hamilton et son garage avaient le choix, pour une fois, d'adopter n'importe quelle stratégie en course suite au dernier arrêt au stand de Nico Rosberg. Donc ça, c'était une nouveauté. On l'attendait plus ou moins. Les médias, en tout cas, avaient initié l'idée, on va dire, que Hamilton puisse offrir... Enfin, que Mercedes puisse offrir, on va dire, une chance supplémentaire à un pilote d'aller lutter pour une victoire. Ce qui me semble pas mal, hein, pas forcément inéquitable d'ailleurs. Donc voilà, ils ont décidé de tester ça à Abu Dhabi, c'est le mieux, hein. Ils ont remporté les deux titres, il n'y a plus rien à jouer à part une victoire, donc c'est bien de tester ça à ce moment-là. Seulement, le problème qu'a eu Mercedes, c'est que de passer de un choix à une seule stratégie, comme ils l'ont fait pendant toute la saison, à une multitude de stratégies possibles, là c'était trop de choix pour ces cerveaux-là, hein. Trop de choix pour les cerveaux, et les cerveaux de Mercedes n'ont pas compris, hein, quelle stratégie adopter, ça se bousculait un peu trop au portillon des neurones. Donc voilà, c'est ça d'être trop formaté à une seule chose, et bien quand il faut faire des choses différentes, et bien on est perdu, même on peut être la meilleure écurie en F1, on peut être perdu également. Alors, ça a amené quoi? Ça a amené des discussions très longues en course, hein, concrètement, des discussions très longues entre Hamilton et son ingénieur à la radio, ce qui est assez inhabituel, les deux n'étaient pas d'accord entre eux, pas vraiment d'accord, ils se sont mal compris, bref. D'habitude, quand il y a une stratégie, c'est assez clair dans les radios, c'est genre Strat B, Strat 1, c'est très rapide, ils ont déjà tout vu avant la course, les différentes stratégies possibles, il n'y a pas à décortiquer le truc pendant 3 heures. Bien là, entre Hamilton et son ingénieur, ça a dû durer pendant un moment, hein, la discussion, et c'est très inhabituel et très inquiétant pour Mercedes d'ailleurs d'avoir pu entendre une si longue discussion sur une stratégie qui finalement s'est avérée moyenne, hein, cette stratégie, même pas du tout payante. Et en plus, après la course, parce qu'en plus pendant la course, il y avait un millimélo pas possible, un cafouillage pas possible, mais après la course aussi, parce que les versions de Mercedes et d'Hamilton diffèrent. Et oui, deux versions différentes. Et là, je pense vraiment, si ça n'a pas été déjà fait, évidemment, je pense vraiment qu'un débriefing s'imposera en interne avec Mercedes et ses pilotes pour vraiment éclaircir ce qu'il s'est passé, éclaircir la chose, éclaircir le cas où plusieurs stratégies peuvent être envisagées. Pour que ça ne se reproduise plus. Parce qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Là, Mercedes, c'est bien, ils sont largement devant en termes de performance, ça n'a pas trop de conséquences. Mais l'année prochaine, moi je connais une écurie italienne qui se frotte déjà les mains en vue de l'année prochaine en voyant ça en fin de saison 2015 après 2 ans de domination. Et l'écurie dominante n'est pas encore au point sur un élément de course. Et là, Ferrari, ils se frottent les mains de voir ça. Pourquoi ? Parce que l'écurie italienne sait adopter des diverses stratégies, quitte à prendre des risques démesurés avec un pilote, ils savent le faire et ils n'hésitent jamais à faire ça. On le sait depuis des années maintenant, que ce soit sous une direction ou une autre, chez Ferrari, ça a toujours été le cas. Hein. Ils savent prendre des risques, alors que Mercedes, c'est le contraire. Ils savent seulement appliquer une stratégie unique à leurs deux pilotes, dans un but d'équité. Alors oui, la raison, c'est l'équité. La première raison, l'équité entre les deux pilotes, et la deuxième raison qui arrange bien Mercedes, c'est évidemment que ça va limiter les embrouilles internes entre les pilotes, parce que il y en a pas un qui pourra dire « Ah oui, mais je me suis arrêté plus tôt, mais si j'avais su que mon coéquipier aurait adopté une stratégie différente, je me serais arrêté plus tard. » Bref, il y a un jeu d'esprit comme ça qui va très très loin et qui est assez infini finalement si on offre la possibilité d'une stratégie. Mais bon, en gros, Mercedes ne se mouille pas, tout simplement. Ne se mouille pas avec ses deux pilotes. Et en plus, ils veulent assurer sportivement à chaque fois le top 2. Donc ils ne veulent pas du tout prendre de risques avec la stratégie. Voilà, ils appliquent une stratégie bateau, mais qui va leur assurer le résultat. Ça peut se comprendre, évidemment, ça peut se comprendre. Ils ne tiennent pas compte de qui est devant l'autre. Pour eux, c'est le résultat d'équipe qui passe avant le résultat individuel. Enfin, en tout cas, ils calculent pour faire un résultat d'équipe et ensuite, c'est sur la piste que les pilotes doivent se battre. Voilà, c'est leur philosophie. Mais le truc, c'est que Ferrari doit apprécier vraiment en vue de 2016. Pourquoi? Parce que, alors certes, ils savent adopter diverses stratégies et ça va les aider. Mais surtout, s'ils sont plus près de Mercedes, parce que là ils sont pas assez près, donc ça leur sert pas à grand-chose, mais s'ils sont assez près de Mercedes, eh bien ils voudront les obliger à être plus fins stratégiquement. Et oui, par exemple, s'il y a une pression de Ferrari qui, par exemple, fait un undercut avec un pilote, eh bien il faudra que Mercedes s'adapte pour adopter la bonne stratégie et pas forcément faire la même stratégie avec les deux pilotes. Et là, s'ils ont un moment d'hésitation comme ça a été le cas... Comme ça a été le cas avec Hamilton, là, un moment d'hésitation de plusieurs tours, eh bien Ferrari pourrait prendre l'avantage même sans être la meilleure monoplace du plateau, hein, je pense. Même en étant un peu en dessous de Mercedes, ça pourrait le faire. Donc attention, Mercedes doit vraiment revoir ça à l'intersaison, hein. La pause est la bienvenue pour cela. Et par ailleurs, il y a aussi un point très important et que Mercedes, il commence à avoir du mal, il commence à être énervé à ce propos, c'est que Ferrari, de leur côté, Vettel et Raikkonen, ils s'entendent comme coq en pâte, comme on pourrait dire, expression plus utilisée depuis 1982, je sais, désolé. fallait que je la fasse, celle-ci. Bref, Vettel et Raikkonen s'entendent très bien, donc ils ne seront pas du tout réfractaires à le faire jouer une stratégie d'équipe pour battre Mercedes, hein, quitte à ce qu'un pilote soit un peu plus désavantagé que l'autre. Hein. On a bien vu hein, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Vettel naturellement a laissé passer Raikkonen. Bon, certes, après, il a demandé si c'était bien la stratégie, mais en tout cas, son naturel lui a fait dire que Raikkonen était plus rapide, était sur une stratégie qui lui permettait de peut-être faire quelque chose en passant Vettel, et du coup, il l'a laissé passer. Mais ça, c'est très bien. Et pourtant, Vettel, on le sait, on a vu le fameux multi 21, multi 21 gate là avec Weber il y a quelques années. Il est pas, disons que s'il y a moyen de jouer individuellement la gagne, il faut qu'il la joue. Mais bon, dans un cas où l'écurie est pas dominante et qu'il faut aller chercher une écurie devant, il est prêt à faire le jeu d'équipe et c'est très bien. Je pense que Ferrari en est très satisfait et également ça lui donne une aura différente cette saison aux yeux du public. Hein. Ça c'est complémentaire au HSD que j'avais fait sur Vettel évidemment. Bah alors que chez Mercedes, voilà, c'est tout le contraire. On a Hamilton et Rosberg qui n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes depuis maintenant pas bien longtemps, par déclaration interposée ou bien même au sein d'une même conférence de presse d'après-course qui rend l'ambiance un peu tendue. Bref, les deux ne sont pas là pour s'apprécier d'ailleurs, c'est vrai. Mais ils s'entendent beaucoup moins bien qu'en 2013, hein. Ça c'est clair. Hein. Regardant 2013, ils s'entendaient vraiment très bien. Et évidemment, lutter pour le titre, hein, ça tend un peu tout le monde, ça met sur les nerfs, il y a l'adrénaline qui vient chasser un peu le reste. Et voilà, peut-être des vieux démons ressurgissent. Hein. En tout cas, c'est pas pour nous déplaire. Hein. Moi, c'est pas pour me déplaire de voir un tel spectacle, on va dire, tant que c'est pas malsain, ça va. Ça a pu être peut-être malsain épisodiquement, mais quand c'est une rivalité comme ça, pourquoi pas? Mais Mercedes n'aime pas, évidemment, parce que oui, comme je l'ai dit, l'année prochaine, s'il faut faire un jeu d'équipe, une stratégie d'équipe, chaque pilote, que ce soit Rosberg ou Hamilton, va s'interroger pour dire, ah oui, mais là je me désavantage en faisant ça, et ça va être plus difficile d'adopter telle ou telle stratégie, et l'ambiance va en pâtir. Et d'ailleurs, Mercedes, par l'intermédiaire de Toto Wolff, se fait pressant pour que l'ambiance s'améliore, mais... À être pressant sur les deux pilotes, à mon avis, ça peut créer également une ambiance encore plus tendue au sein même de l'écurie, et pas qu'entre les pilotes, mais également entre les pilotes et l'écurie. Et on sait que c'est peut-être déjà un petit peu le cas entre les pilotes et l'écurie, parfois, même si c'est pas non plus à la Senna-Prost, ça c'est clair, mais attention Mercedes, attention. Je l'avais dit là, à la fin de la saison dernière où on disait ouais c'est bon Mercedes ils gèrent le coup, ils ont réussi à canaliser les deux pilotes. Je l'avais dit attention, attention au début de la saison prochaine on remet les compteurs à zéro et ça s'est bien vérifié finalement. Alors finalement parce que finalement je n'ai pas été concret, qu'est-ce qu'a été la stratégie de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi? Alors après le dernier arrêt au stand de Rosberg en fait. Hamilton a attendu environ 11-12 tours, c'est 11 ou 12 tours, hein, pour s'arrêter finalement. et chaussé les pneus pas les pneus super tendres, et non, alors que Rosberg avait chaussé les tendres. Attendre autant et perdre autant de temps, il a perdu 8 secondes en tout, entre 8 et 9 secondes durant ses 11-12 tours. À mon avis, il aurait dû chausser les super tendres pour prendre un petit risque pour pouvoir gagner, mais non. Il a chaussé les tendres, Mercedes a choisi de lui faire chausser les tendres, c'est-à-dire les mêmes pneus que Rosberg, sachant que Rosberg n'a pas eu de mal à les tenir jusqu'au bout avec un rythme pas trop mal. C'était trop peu de performance sur les tendres pour Hamilton pour aller chercher la victoire. Hein. Donc voilà, on a tout simplement assuré la deuxième place, assuré le doublé, comme on fait d'habitude, mais de façon différente cette fois-ci. En fait, on a fait de façon différente, mais pareil, hein. C'est assez paradoxal, mais c'est le principe, hein. Donc ça n'a servi à rien de faire ça. Hein. Ils ont fait n'importe quoi, Mercedes, hein. On peut le dire, une stratégie nulle pour permettre à Hamilton d'aller chercher la victoire. Évidemment, une stratégie agressive s'imposait, évidemment. Alors, il y avait deux choix, hein. Soit chausser les super tendres, vu qu'on a attendu quand même 11-12 tours et qu'il restait pas vraiment. Il restait pas beaucoup de tours. Et en plus, avec les monoplaces déchargées en essence, il y avait vraiment moyen de tenir les super tendres jusqu'à la fin. Sébastien Vettel l'a prouvé d'ailleurs. Soit on choisit de laisser Hamilton devant avec les tendres et de tenir jusqu'au bout. Voilà, c'est deux prises de risque, mais qui s'imposaient pour aller chercher la victoire, pardon. Il n'y avait que ces choix-là, tout simplement. Ou bien le même choix que d'habitude, c'est-à-dire s'arrêter juste après Rosberg, comme lors du dernier arrêt au stand de Rosberg, il y avait moins de 2 secondes de différence. Donc, ça aurait été aussi un bon choix, même si c'est dur de suivre un coéquipier en Formule 1 et d'aller le chercher. Mais bon, voilà, il y avait trois stratégies possibles et ils ont choisi une pourrie. C'est incompréhensible, hein. Ils ont choisi la pire possible. Donc, c'est assez triste, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis après, quand ils ont dit, ah ouais, on assure la deuxième place, d'accord, ils assurent la deuxième place, ils veulent le doubler, ils veulent montrer Mercedes qui est devant, mais on le sait que Mercedes est devant, Mercedes est déjà champion. Ça m'énerve au plus haut point, parce que finalement ça entrave un peu la course, hein. Ça entrave un peu peut-être les désirs d'Hamilton d'aller gagner, parce que selon moi Hamilton il s'en fout de finir 3ème dans cette course et que Raikkonen finisse 2ème, enfin j'espère. Et d'ailleurs je trouve qu'Hamilton n'a pas été assez ferme, que ce soit en course ou après course, il aurait dû le dire ça, à mon avis c'est le truc le plus évident qui me saute le plus aux yeux pour un pilote de course, il aurait dû dire, mais... par rapport à la déclaration, aux déclarations de son écurie et par rapport à la stratégie, il aurait dû dire, mais on a assuré le doublé, mais au pire, moi, je m'en fichais d'être troisième. Moi, je voulais aller chercher la victoire et c'est tout, juste la victoire, le reste ne m'intéressait pas. Il aurait dû dire ça, il ne l'a jamais dit, donc ce qui me fait dire que soit il s'en fiche parce que c'est la fin de saison et qu'il est champion et qu'il a envie de laisser couler. Soit tout simplement, il voulait vraiment la deuxième place au lieu de la troisième, et il n'est pas de ces pilotes qui ont le tempérament aller chercher la victoire sinon rien dans certains cas, et ce serait bien dommage. Mais en tout cas, il fallait faire ça, il fallait vraiment tout tenter pour aller chercher la victoire, ça n'a pas été fait. Voilà. Et c'est très triste, parce que le seul Grand Prix de la saison sur 19 où Mercedes se permet une liberté de choix pour le pilote qui se trouve en deuxième position... Eh bien, ils arrivent à faire la pire stratégie, la pire tactique possible. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique, quand même, de la part de Mercedes. C'est pas digne d'une écurie championne du monde. Et voilà, encore une fois, Ferrari a hâte d'être en 2016 pour aller, on va dire, tâter les Mercedes et essayer de les enquiquiner devant. Et voilà, c'était tout pour tout ce qu'il ne fallait pas manquer à Abu Dhabi en 2015. Au moins, je n'en ai pas trop révélé sur la course, ce qui fait que si vous n'avez pas vu la course, eh bien, je vous invite à aller la voir si jamais, les points que j'ai évoqués vous intéressent. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder la course, au moins, vous n'avez pas trop de... comment dire... vous n'êtes pas trop spoilé, comme on pourrait dire, c'est-à-dire, vous n'êtes pas au courant de grand-chose de la course et vous pouvez la regarder... tout en ayant l'effet de surprise à différents tours de la course. J'aurais pu également parler de la course de Max Verstappen... Mais comme je vais consacrer une chronique dédiée soit à lui, soit aux différents rookies de 2015, eh bien je n'en ai pas parlé ici. Voilà, entre autres, donc à venir dans les prochains podcasts, dans les prochaines chroniques, du Max Verstappen, du McLaren Honda, évidemment, et bien d'autres choses. C'est certes la trêve hivernale, mais il y a encore pas mal de choses à traiter en termes d'actualité et en termes d'analyse. Donc je vais continuer comme l'année dernière, il n'y a pas de souci, je trouverai des sujets, il y a les émissions, il y a différents formats, je pourrais aussi tester peut-être d'autres rubriques. Ça m'étonnerait, je pense que je n'ai pas le temps, donc ne vous y attendez pas. Et veuillez m'excuser pour avoir publié ce podcast un peu plus tard que prévu. Ah oui, quand j'annonce une date, quand je dis « Ouais, je vais publier ce podcast normalement demain ou tel jour », non, il faut jamais me croire, hein. Ça, à chaque fois, je fais l'erreur et à chaque fois, je me prends les pieds dans le tapis. Et il ne faut plus que je dise ça, que j'annonce deux trucs. Faut que je les annonce juste quand ils sont montés, je peux annoncer, mais pas avant. Et quand j'annonce avant, généralement, je respecte rarement les dates annoncées. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en compagnie d'Analyse F1, en compagnie de la F1 en général. Et en attendant le prochain podcast, comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt.